C'était Leslie North qui nous a chanté et c'était très bien, très bien. Gloire à Dieu! Donc, vous venez les fenêtres, c'est des petites chambres pour traduire. En chinois, en russe, en espagnol, en français. C'est très bien. Donc, j'ai deux personnes de qui j'aimerais parler dans le contexte de comment les pécheurs comme nous, êtes-vous une personne pécheresse? Ah, une personne qui n'est pas sauvée. Donc, une personne pas sauvée, pécheresse, qui a peur de Dieu. Donc, dans Amos, on va tourner. Donc, allons dans Amos 3. Peuvent-ils marcher ensemble? Donc, dans le contexte, Israël est parti de Dieu. C'est un thème qui revient. Vos dieux sont la confusion. Leurs dieux ne connaissent pas le passé, le présent et le futur. Donc, c'est un beau résumé des idoles. Donc, Dieu est dans un concours entre lui-même et les mensonges qui sont dans le monde, qui viennent par les idoles, les dieux de ce monde, qui ne sont pas des dieux, en fait. Ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas écouter, ils ne peuvent pas voir que dans Psaume 115. Donc, si vous voulez lire cet après-midi, lisez Isaïe 41 à 44 et allez voir ce que Dieu dit à propos de ce sujet. Il dit, il n'y a pas autre Dieu, je ne trouve personne, je suis seul. Ah, je n'en trouve pas. Il n'y a aucun autre Dieu que moi. C'est comme il utilise du sarcasme. Je suis le seul Dieu. Je suis le seul sauveur. Je suis Dieu. C'est très beau. Donc, il y a un concours entre la vérité et les mensonges. Et notre nature pécheresse, quand nous avons péché, nous avons trois imputations qu'on appelle. Quand Adam a péché, le péché était passé génétiquement à nous aujourd'hui. Nous sommes des pécheurs car notre père a péché. C'était donné à nous, cette génétique de la nature pécheresse est donnée à nous. Quand nous sommes sauvés, on a quand même la nature pécheresse à cause de notre corps qui va mourir, qui est mortel. Je ne peux pas attendre à m'envoler. Dans Psaume 90, nous allons nous envoler. Est-ce qu'on va s'envoler avec notre nature pécheresse ou pas? Sans. Mais le corps va être remonté dans la gloire. Dans Philippiens 3, 20 et 1 Jean 3, versets 1 et 2. Ah, c'est très bien d'entendre la Bible, la parole. Nous pouvons écrire ces versets. Écrivez-le sur un petit papier, mettez-le sur votre miroir, sur votre front, Deutéronomie. Écrivez-le sur votre main, votre cou, votre cœur, votre front. Écrivez-le. C'est la façon de vivre, de trouver l'Esprit de Dieu nous parler. Sa parole, quel trésor! J'ai trouvé ta parole et je l'ai mangée. Et c'était la joie de mon cœur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé? J'ai trouvé ta parole et je l'ai mangée. C'était la joie dans mon cœur. Pourquoi? Car je suis appelé par ton nom. Notre verset a donné son surnom. C'est son nom de famille. Jésus-Christ. Quel est son nom de famille? Christ. Qui est-il? Dieu. Quel est ton nom? Je ne veux pas le dire, mais on a son nom. On a son nom. Nous sommes appelés par son nom. C'est pour ceci que c'était la joie de mon cœur. Je suis appelé par son nom. N'est-ce pas bien? J'ai trouvé ta parole, la Bible. C'est la Bible qui nous dit ceci. Et nous l'avons mangé. Et c'était la joie, la réjouissance de mon cœur, car je suis appelé par ton nom. Ce qui veut dire que nous sommes dans la famille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes dans la famille de Dieu. Nous sommes dans son groupe. Nous sommes nés en lui. Nous avons sa nature. La nature sainte de Dieu. Nous sommes appelés les gens saints. Une nation sainte. Une génération choisie. Ce mot « génération », ça vient du mot grec « genes », qui veut dire donc, ça parle des catégories des gens qui vivent. On a les genes, donc les homo sapiens. Les homo, c'est les genes. Nous sommes appelés une sainte comme créature. Nous sommes nés dans... Nous sommes différents dans ce qu'on a en lui. Nous n'avons pas de péché en lui. Dans le premier Adam, nous savons la nature pécheresse, mais dans notre nouvelle naissance, nous n'avons pas de péché. Donc, le premier Adam venait de nos génétiques. C'est légalement c'est légalement attaché à nous, mais nous n'avons notre deuxième imputation associée à Christ. Sur le corps, chapitre 2, il a pris nos péchés. Qu'est-ce qui est écrit? C'est allé sur son corps. L'Esprit était saint et parfait. Il n'avait pas de péché personnel, mais nos péchés sont allés sur son corps et son sang était versé pour... C'est écrit que nous sommes libres. Dans Hébreux 8, 12, c'est écrit qu'il ne s'en rappelle pas de nos péchés. Notre troisième imputation, Jésus, la perfection de Jésus est imputée à nous et donnée à nous. Je n'ai pas vu une vie parfaite, mais lui, il a vu. Sa vie parfaite est donnée à nous. Je suis autant parfait que Christ en lui. En Christ, nous sommes justifiés par Christ. C'est la grâce de Dieu qui nous a justifiés, sa droiture. Et nous sommes sauvés puisque la droiture de Jésus est donnée à nous et nous sommes déclarés droits lorsque nous ne sommes même pas. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Puisque nous sommes quand même dans ce corps qui a une nature pécheresse, mais nous avons aussi la réalité de Christ née en nous. Nous sommes nés non d'une nature pécheresse, mais nous sommes nés de nouveau par la parole de Dieu qui habite en nous. C'est similaire à Marie qui est mise enceinte par Dieu quand l'ange a dit « Cette chose sainte qui sera née en toi sera le Fils de Dieu. » Et dans verset 37, elle a dit « Fais en moi en accord à ton mot, à ta parole. » Née de Dieu. Son corps, elle avait son corps, mais elle avait quelque chose de plus. Elle avait le Fils de Dieu né dans son corps. Et Christ était né en elle. Ce n'est pas la même chose en nous, puisque cette naissance est spirituelle. Et nous avons une nature pécheresse, mais nous disons la même chose à Dieu. Je te crois. Je crois ta parole. Je crois que ton Fils est venu pour prendre mes péchés. Je crois que tu m'as donné ton Fils pour me sauver. Je crois que tu es pour moi et non à l'encontre de moi. Je crois que tu m'aimes. Je le crois. Et que tout se passe à travers ta parole. Et ensuite, vient cette partie. Nous sommes tous ici dans cette chambre quand nous péchons. Et ça se passe puisqu'on a une nature pécheresse. Quelques chrétiens, lorsque ça se passe, ils sont tellement frustrés avec eux-mêmes, parfois mécontents, détruits émotionnellement par ce qu'ils ont fait, par les péchés qu'ils ont commis. Ils sont déçus, découragés, et ils se demandent, on se demande, est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que je suis encore sauvé? Et ces personnes se disent, ils se demandent, comment je peux vivre pour ne pas pécher encore? Comment je peux vivre pour que j'aie une victoire sur ma nature pécheresse? Donc, on peut même dire, Seigneur, tes consolations sont petites. Je ne vois pas. Je suis pareil. Peux-tu m'aider? Quelle est la réponse? Je n'ai pas changé. Est-ce que Christ est né en moi ou pas? C'est comme on pense un peu qu'est-ce qui peut se passer. Et si vous n'avez pas senti ces choses-là, ça pourrait se passer à vous dans le futur et vous pouvez être très déçu en vous-même. Mais la Bible nous apprend que les consolations de Dieu sont bonnes, qu'il a des vraies réponses pour nous, qu'il est personnel, qu'il nous aime, qu'il est assez. Il y a deux personnes desquelles je pense dans ce regard. La première personne, une personne qui n'est non sauvée, qui n'est pas sauvée, dans Genèse chapitre 4, son nom c'est Cain, qui a tué son frère. Et Dieu lui parle, donc lisons. Dans Genèse 4, nous allons lire le texte. Pour être honnête, ça m'a pris plusieurs années pour comprendre ce que ce texte, ce que je vois dans ce texte. Et je vois vraiment un Dieu très aimable, qui parle à un meurtrier. Premièrement, ça prendrait du temps pour passer à travers l'histoire, mais c'est seulement un commentaire bref sur l'histoire. C'est que Cain, il est en train de louer, mais pas beaucoup. C'est comme s'il louait soi-même. Il amène des sacrifices, des légumes qui ne sont pas acceptables. Et Cain n'est pas changé à l'intérieur. Son offrande n'est pas respectée dans le verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Cain est un fermier. Il est un homme qui comprend Dieu. Sa famille, Adam et Ève, il lui a été appris à propos du sacrifice, du sang, comment marcher devant Dieu, mais il ne le fait pas de la bonne façon. C'est comme une religion fausse. Ça ne fonctionne pas. On peut parler toute la journée, mais vous n'avez pas de paix. On peut aller à la mosquée, au temple, à l'église, vous pouvez tout le faire, tout le temps, mais ça ne changera rien. Jésus a dit à la femme au puits dans Jean 4, il a dit, tu loues, mais tu ne sais pas tu le quoi. Et c'est très typique dans le monde de la religion. Les gens louent, ils glorifient, mais ils ne savent pas c'est qui qu'ils glorifient. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, ce que c'est. Ils entrent et ils sortent. Et Dieu dit à Cain, pourquoi es-tu fâché? Si ton offrande est acceptable, pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu irrité? Et ceci peut être demandé à plusieurs personnes. Pourquoi les gens religieux sont-ils insatisfaits? Pourquoi les gens qui sont religieux ils ne changent pas vraiment à l'intérieur? Christ a dit aux pharisiens, vous vous occupez des choses extérieures, aux choses, vous lavez vos mains à l'extérieur. Mais celui qui a créé l'extérieur, il a aussi créé l'intérieur. Et qu'est-ce que l'intérieur? La conscience, l'amour. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Mes pensées, mon cœur. C'est pour ça qu'on vient à l'Église, pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Car le Saint-Esprit veut nous apprendre et ça l'affecte l'intérieur. Nous ne nous occupons même pas autant de l'extérieur de comment on s'occupe de l'intérieur. Gardez votre cœur parce que de notre cœur sortent la vie. Donc, Cain a un problème. Et le problème rend surface dans le verset 8 quand il est avec son frère. Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Ça l'a pris du temps pour tuer son frère, pour le meurtre se passer. Il avait besoin d'un temps et d'une place, mais c'était déjà dans son cœur. Même si ça ne s'avait pas passé auparavant, il l'avait dans son cœur. Et quand l'opportunité est venue, il était déjà là dans son cœur, prêt à tuer. Avant le meurtre, il y avait l'issue dans son cœur. J'ai besoin d'être bien avec Dieu. Et j'ai besoin de dire à Dieu, Seigneur, j'ai du meurtre dans mon cœur. J'ai de l'haine dans mon cœur. Peux-tu l'enlever? Oui. Oui, il peut. Si je peux amener mes péchés devant Dieu pour marcher dans la lumière de Jésus-Christ nous purifier Et on peut marcher dans la lumière comme Jésus est dans la lumière et je n'ai plus le meurtre dans mon cœur. Nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à aimer. Nous devons apprendre à marcher avec Dieu et laisser Dieu s'occuper des choses dans notre cœur. Parce que sinon, ces problèmes vont rendre surface. Commettre l'adultère, dire des mensonges, d'être pas honnête, ce sont tous des choses qui sont dans nos cœurs et c'est pour ça que Cain a commis un meurtre. Et Christ a utilisé ces situations dans l'Évangile. C'est ce qui s'est passé à Cain et Abel. C'est la même chose qui va se passer à moi dans cette génération, car c'est une génération méchante. Et ça c'est juste un dilemme de temps. C'est le temps qui va montrer que ils ont l'opportunité et le meurtre dans leur cœur va venir rendre place avec les circonstances. Et si Judas a dit, « Jésus, j'ai des problèmes. Je ne crois pas en toi. Jésus, j'ai des problèmes et j'ai besoin de comprendre. » Et Jésus aurait pu dire à Judas, « Je peux te parler parce que je suis venu pour te sauver. Je suis venu pour te donner une nouvelle vie. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas. Ah, alors tu as ce que tu as. Il y a des gens qui disent je ne le veux pas et c'est pour ça que c'est écrit. Donc, allons au prochain verset, s'il vous plaît. Dans le verset 9, l'Éternel dit à Cain, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et Dieu a dit, vraiment? Tu crois que quand il était mort à terre, tu ne l'as pas vu? Tu ne sais pas où est-il? Vraiment? Bien sûr. Nous ne pouvons pas être honnêtes avec Dieu. C'est très difficile d'être honnête avec Dieu. Très difficile. D'être honnête avec Dieu, de tout amener, tous mes problèmes, je les amène à Dieu. C'est difficile d'être honnête de cette façon. Mais il désire qu'on le fasse. Et avec notre nouvelle naissance, nous avons hâte à le faire. Dans Psaume 90, verset 12, « Je veux amener mes péchés secrets dans ta lumière. Je les mets sur la table. Je fais ma confession. » C'est mieux. Puisque sa consolation, ses consolations sont tellement grandes qu'il va nous pardonner sept fois multiplié par 70, puisqu'il est bon et patient. Et si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause de la grâce de Dieu qu'il veut nous parler. Il veut parler à nous comme il a parlé à Cain. Il a dit à Cain, « Où est ton frère? » Ça faisait partie de faire face à la musique. « Je dois faire face. » »« Oh non, je ne veux pas aller voir le directeur de l'école. » »« Mais tu as besoin de le faire. » »« Oh non, je ne veux pas entendre le message du docteur. » Je ne veux pas que le mécanique de mon auto me dise la vérité. C'est difficile. Mais avec le Seigneur, c'est notre nouvelle vie. C'est notre joie. C'est notre façon de vivre. L'instruction et la façon de la vie, c'est comme quand on conduit, on regarde les miroirs. on regarde si le gaz est rempli, on regarde les signaux, on regarde les miroirs. C'est comme ça qu'on conduit l'auto et c'est comme ça qu'on vit notre vie. On vérifie mes frères, mes sœurs, la Bible. Qu'est-ce que Dieu me dit? Mes louanges, ma joie, mon chant. Dieu nous apprend, il nous guide. Si nous prenons cette rencontre et toutes ces rencontres autour du monde, lorsque Jésus est levé et la Bible est appris, qu'est-ce qu'on a si tout est enlevé? Qu'est-ce qu'on a? On a été au collège, on a été à l'école, on a tout vu à Hollywood, dans les films, dans les nouvelles. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a seulement beaucoup de mensonges. Où est ton frère? Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Quoi? Est-ce que je suis supposé savoir où est mon frère? Ça sonne comme de l'arrogance. Je viens de vous montrer qu'est-ce que l'arrogance. Regardons le verset. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Avez-vous déjà élevé un adolescent rebellieux? Et il nous répond avec du sarcasme. Est-ce que ça s'est passé dans votre famille? Donc, pourquoi le gazon n'est pas coupé? Quoi? Je ne sais pas. Où est la tondeuse? Quoi? Est-ce que je suis supposée savoir où est la tondeuse? On connaît tous cette situation. Ces communications qui viennent rendre test. Où est-ce que je peux décider quelle va être mon attitude? Parce qu'on ne parle pas ici d'un humain, on parle du Dieu, de Dieu. Il est tellement humble pour parler à Cain. Même quand il a tué son frère, c'est incroyable. Et c'est le point que je voulais faire à propos de cette première personne. Cette personne que même Dieu lui parlerait. Dieu lui parle. Il lui dit, tu vas avoir un temps difficile, Cain. On va lire dans le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu serais maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cela veut dire que Dieu nous dit, encore une fois, je crois qu'il est très aimable et gentil de dire à Cain, il aurait pu dire, Cain, tu as tué ton frère, tu es fini, bye bye, bye bye. Tu as tué, je t'enlève. Il aurait pu dire ceci, mais il ne l'a pas dit. Il a donné la vie. Et lui a dit, tu vas avoir un temps difficile. Et je vais dire ces mots et je veux vraiment que vous écoutez pour que vous compreniez ce que j'ai à dire. Dieu est mécontent avec les méchants. C'est écrit dans les psaumes, mais il les aime. La pluie tombe sur les justes et l'injuste. Le soleil tombe sur le juste et l'injuste. Dans ce monde, Cain, j'aimerais que tu prends le trouble que tu as, le trouble que tu as dans ta conscience, tes problèmes, la malédiction. Je veux que vous le preniez tout à moi. Donnez-le à Dieu pour me connaître. Car je suis le Dieu qui va te pardonner, qui va te donner la grâce. Je vais te donner ma droiture, ma perfection. Je vais te sauver par ma de ton meurtre, de tes mensonges, de tes péchés, et je vais te donner Jésus-Christ. Tu vas être libre. Tu vas avoir une nouvelle vie. Et je vais t'avoir comme mon serviteur. Mais maintenant, tu es un vagabond. Un vagabond qui court. Tu es un vagabond qui court. Tu vas te lever à chaque matin, penser que quelqu'un va te tuer. Et le matin, tu vas sortir de ta porte en regardant de tous côtés. Tu vas te cacher. C'est écrit que Dieu a mis une marque sur lui pour que personne ne le tue. Est-ce que vous le voyez dans le verset 13? Cain dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent de cette façon. Ça serait incroyable s'ils nous écoutaient aujourd'hui, ça serait très bien. J'aimerais vous dire, votre pénitence est plus grande de ce que vous pouvez tenir vous-même pour être supporté. Mais Jésus va l'enlever. Tu as peur, mais tes péchés sont pardonnés. Tu as le don de la vie éternelle. Dieu est ton Père, ton Sauveur. Mais sans lui, ça va être difficile. Passons au prochain verset. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Je crois qu'ils vont me tuer. Je crois qu'ils vont me tuer comme un animal. Et le Seigneur dit non. Regardons le verset 15. L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Cain, Cain sera vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Cain pour que quiconque le trouvera ne le tue point. C'est l'histoire qui nous donne une bonne pensée. L'Éternel mit un signe sur Cain comme un tatou. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a mis sur Cain? Je crois que c'était une marque invisible. C'était comme un signe invisible. La protection. Une protection spirituelle sur Cain. Pour que quelqu'un le trouve, il ne le tuerait pas. Dieu ne le laisserait pas être tué. À moi, ça veut dire que l'élément très humain d'un père qui aime son fils, qui ne veut pas que son fils soit jugé et qu'il prendrait même le jugement sur soi-même pour lui donner de la grâce. Et le père veut que son fils soit sauvé. Et le Père dit, « Cain, tu sais même pas comment je t'aime. Tu n'as aucune idée ce que j'ai pour toi. Tu ne me connais pas. Pas du tout. Ma consolation sont petites dans tes pensées. Mais tu vas vivre dans ce monde sans moi et avec cette mémoire de ton frère et ta peur, sa peur de la société. » Et la terre qui n'est pas ce qu'elle est supposée être, la souffrance. Et Dieu se promène et il dit, ah, de cette façon, je suis pour toi. Cain est mort et il est allé à l'enfer. C'est écrit qu'il était perdu. Qu'il est allé à l'enfer. Il était perdu. Wow. La deuxième personne, j'aimerais en parler très rapidement, c'est la femme qui a trouvé Jésus. La prostituée qui a trouvé Jésus. Qui est entrée dans la maison des pharisiens. et un dîner. Et Jésus est invité aussi. Elle s'est assise à ses pieds. Elle a pleuré et a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et Simon, il y a les pharisiens dans la chambre, mais elle est occupée avec Jésus. Elle est occupée. Elle le connaît. C'est celui. Il est celui qui m'a sauvé, qui m'a pardonné, qui m'a donné un nouveau cœur, un nouvel esprit. C'est lui. J'ai mes yeux sur lui. Est-ce que les consolations sont minimes avec lui? Non, elles sont infinies. Plus en plus en plus en plus. Toute ma vie. Pour toujours. Deux personnes. Qu'un? Son monde est petit. Et devient de plus en plus petit. Et Dieu est bon envers lui, mais il ne peut pas le sauver. Il ne peut pas le sauver. Il peut, mais il ne peut pas sans lui dire oui. Et cette femme, c'était comme une image de quelqu'un qui dit « Aide-moi et sauve-moi ». Et il l'a fait. Quand tu es dans ton trouble, quand tu fais des erreurs et tu es déçu de toi, ne deviens pas dur et un vagabond, quelqu'un qui se chasse de Dieu. Non, tu fais partie de la famille de Dieu. Tu es un chrétien et tu aimes Dieu et Dieu t'aime. Il y a des frères et sœurs qui ne sont pas parfaits. On a l'amour. Sois réceptif. Ne sois pas jugemental, négatif. Des hypocrites, mais soyez gentils, soyez doux, transparents, ouverts, soumis et entendez de Dieu, notre Père éternel. Il va nous tenir, nous encourager, nous bâtir. Il va nous appeler par notre nom. Il ne va jamais partir de nous. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici dans la chambre ou qui nous écoute sur l'Internet qui peut s'identifier avec un et peut dire « J'ai plus peur de Dieu. J'ai très peur de Dieu. Je ne veux pas être honnête. Je ne veux pas être ouvert et humble. Je suis fâché. Je suis très fâché à propos de mon voisin, mon père, ma mère, mon travail. Qu'est-ce qui va se passer? » Et je veux te dire, s'il te plaît, reconsidère ceci et viens à Christ comme tu es. Et mets-toi d'accord avec Christ. Dis à Jésus, c'est à toi. Mes péchés sont allés sur ton corps pour que ta droiture, ta perfection vienne à moi, pour qu'elle soit donnée à moi quand je crois en toi. Donne-moi la joie du salut. Remplis-moi de ton esprit d'amour et de pardon. Et mets en onction ma vie. Appelle-moi par ton nom. Je fais confiance en toi. Le voleur sur la croix l'a fait et l'autre voleur sur la croix ne l'a pas fait. Un homme, un frère l'a fait et l'autre frère ne l'a pas fait. Lequel es-tu? Dis dans ton cœur à Dieu, sauve-moi, Jésus. En ton nom, on prie. Amen. Si tu as dit cette prière, peux-tu lever ta main? Nous allons te donner un livret. Il y a une femme qui a été sauvée, quelqu'un d'autre qui est né de nouveau en croyant en Jésus-Christ. Ici, une autre femme. Que Dieu te bénisse.